Tout le monde a compris, mais personne n'ose poser la question. Il y a 10 minutes, Michael Schumacher a remporté le Grand Prix d'Italie 2006, provoquant le délire chez les 100 000 spectateurs de Monza. À présent, dans la salle de presse du Temple de la Vitesse, le vainqueur doit s'exprimer. L'intervieweur officiel de la F1, Bob Constanduros, pose une question banale sur la course. Aux côtés du septuple champion du monde, Kimi Raikkonen et Robert Kubica regardent leurs chaussures. On entend la respiration de Michael Schumacher dans le micro, son regard se perd dans le vide, sous sa casquette rouge. Le voilà contraint d'annoncer la décision la plus importante de sa carrière.
Der letzte Hoffnung des Michael Schumacher sein.
Oh, look at Michael Schumacher, he's blocked his brakes. Michael Schumacher is coming through to take his first win of the 2003 Formula One season.
3 minuti e 3 secondi, Schumacher e la Ferrari sono campioni del mondo.
Michael Schumacher absolutely flying.
Épisode 10, départ au sommet.
To make it short in a way, this is going to be my last Monza race I'm going to do. At the end of this year, I've decided together with the team that I'm going to retire from racing. It has been an exceptional, really exceptional time what motorsport in more than 30 years has given to me. I really loved every single moment of the good and the bad ones. Those ones make life so special.
Pierre Van Vliet, après une saison 2005 compromise par l'inadaptation des pneus Bridgestone au règlement, l'année 2006 voit un Michael Schumacher au sommet de son art. Il affronte Renault, avec Flavio Briatore aux commandes, et Fernando Alonso.
Tenant du titre, hein, puisque Alonso vient de gagner en 2005 avec Benetton Renault, l'ancienne famille de Michael. Mais bon, c'est une période qui est fort marqué par la guerre des pneumatiques, parce qu'il y a effectivement Michelin hein, qui rentre en F1, et donc il y a la guerre, le match entre Michelin et Bridgestone. Longtemps, Ferrari a eu l'avantage, puisqu'ils avaient ce contrat privilégié avec Bridgestone, et ils pouvaient, en essai privé, voilà, sans limite, tourner et adapter la voiture aux pneus. C'est moins vrai dans cette période-là, le règlement change, et puis Michelin met la barre très haut aussi, et Michelin équipe des équipes de pointe, Benetton en l'occurrence, avec Alonso, mais aussi McLaren, et du coup, on se retrouve voilà, dans un vrai combat sportif. Mais c'est intéressant qu'en 2006, effectivement, Michael est au sommet de son art. Et malgré le fait qu'il n'a plus l'arme absolue, il n'a plus une voiture dominatrice hein, de façon outrageuse, comme ça a été le cas les années précédentes, eh bien, il se surpasse et parvient toujours à garder le haut de l'affiche, à gagner des Grands Prix et à être en lice pour le titre de champion du monde.
Et comment se fait-il qu'à ce moment-là, la Scuderia Ferrari décide plus ou moins de l'écarter ?
Alors, c'est une période un peu trouble aussi chez Ferrari. Le comportement de Michael aussi évolue. On se pose peut-être des questions sur sa motivation à moyen long terme. Et donc, Luca di Montezemolo, le président, se dit qu'il faut peut-être quand même prévoir l'après Schumacher. Il refait un coup bas qui a eu très mauvaise presse. C'est au qualif à Monaco quand il réalise qu'il ne va pas améliorer le temps d'Alonso pour la pole position et qu'il simule une sortie de route à deux à l'heure, à la rascasse, pour sortir un drapeau jaune et empêcher Alonso de faire la pole, ça c'est scandaleux, quoi. Et c'est, parce que ça, sportivement, c'est absolument inexcusable. Mais que le mec ait un esprit assez tordu, parce que ça c'est lui tout seul, hein, c'est pas Jean-Todd à la radio, hein, assez tordu pour se dire « je vais empêcher Alonso de faire la pole, comme moi j'y arrive pas », eh bien, les circonstances vont faire que. Et croire que ça va passer inaperçu, c'est quand même se sentir un peu dans une espèce d'impunité ou un peu intouchable. Et je peux vous dire que ça a eu un effet désastreux sur son image, parce que à Monaco, c'est quand même, voilà, tous les projecteurs sont braqués, et tous les anciens pilotes, les anciens champions, y compris des fans de Michael, ont dit non, ça non, quoi, ça c'est pas possible, ça c'est vraiment un comportement de voyou.
Michael, can you tell us what happened?
You watch the video and you see that I pushed hard, locked up, started sliding and run out of road, which is the consequence here in Monte Carlo.
Michael, were you aware that Fernando Alonso would have gone on to pole if he'd have continued his lap and continued the pace?
I'm pretty busy with driving my car. I had certainly no radio communication. No, not at all. I didn't know where and what and the other guys were doing at this stage.
Michael, what do you think about the mood of the paddock? Because a lot of people have started to talk, you know, against you.
I mean, you have your enemies and you have the people that believe in you. And whoever wants to go one or the other direction, I will not be able to convince them anyway. I mean, that's what they want to think or not think. But I'm there for many, many years, and people should know better who I am and what I am after all these years.
Bon, il s'est retrouvé relégué en fond de grille et Alonso en pole pour gagner le Grand Prix, ce qui permet à Alonso aujourd'hui d'ailleurs de courir après cette fameuse triple couronne, hein, puisque là, il a gagné Monaco et Le Mans, et qui court toujours après Indianapolis. Enfin voilà, et donc chez Ferrari, le doute s'instille un peu, et il y a quand même aussi la gestion à moyen terme, Montezemolo président, mais il prend aussi la tête de la Cofindustria, l'espèce de MEDEF italien, donc politique. Jean, du coup, a d'autres responsabilités chez Ferrari, c'est-à-dire la direction générale de l'entreprise, y compris la production, les voitures de route, etc. Et donc on se cherche un peu sur l'après-Schumacher malgré tout. Et Montezemolo, entre Montezemolo et Jean Todt, on n'est pas d'accord sur le casting. Montezemolo décide de prendre Raikkonen, qui, à l'époque, est le client numéro un en face avec McLaren. Et contre l'avis de Todt, je pense, donc Montezemolo impose Raikkonen comme pilote pour 2007. Et on laisse le choix à Michael. On dit, écoute, enfin, on laisse. Montezemolo dit à Todt, c'est comme ça. Et bon, Michael, c'est Michael et Raikkonen, ou si ça ne convient pas à Michael, ben alors il peut partir. Il y avait Felipe Massa, qui était le bon petit soldat, le lieutenant de Michael Schumacher, mais qui était plus jeune, donc qui était un peu le protégé, le successeur désigné, entre guillemets. Et voilà, et on lui met Raikkonen dans les pattes. Donc ça ne l'arrange pas du tout, Michael. Et il se rend compte aussi que la confiance n'est plus là chez Ferrari, et qu'il y a quelque chose un peu de brisé, notamment entre Montezemolo et Todt, et que donc il n'est plus tout à fait en odeur de sainteté. Et ça provoque finalement son départ, mais son départ par la petite porte, quoi. C'est-à-dire que son départ n'est pas volontaire. On le pousse un peu vers la sortie. Alors non, il aurait pu dire « je relève le challenge et je vais me battre avec Raikkonen à armes égales en 2007 ». C'est un peu dommage qu'il n'ait pas eu le panache de relever ce défi-là. Alors, il y a peut-être d'autres explications, hein, je prétends pas que c'est uniquement ça. Mais en attendant, il n'a pas voulu aller au combat avec Kimi dans la Ferrari. Il a préféré prendre la sortie, pousser vers la sortie. Ce qui était à l'époque un peu dommage, et il y avait un sentiment unfinished business, quoi. Et notamment le Grand Prix d'Italie à Monza quand Michael annonce sa décision. Et puis bon, les derniers Grands Prix se passe, mais sous forme de compte à rebours, et tout le monde est un peu pris de court par le fait que Michael pourrait s'arrêter.
Il joue le titre cette année-là contre Fernando Alonso, et l'avant-dernier Grand Prix, on a une Ferrari qui le trahit, une casse moteur à Suzuka. Ouais. C'était un moment très très difficile, j'imagine.
Oui, parce que là, il se rend compte que le titre s'envole, et que donc même son dernier Grand Prix, il pourra faire des pieds et des mains, il n'a plus son destin entre les mains, donc c'est fini. Non seulement il sort, mais il sort par la petite porte, et il sort sans la couronne sur la tête. Et ça, c'est dur, moralement, pour lui, il y a quand même de l'orgueil, hein, c'est un grand champion. Heureusement, il y a ce dernier Grand Prix qui est assez exceptionnel.
Voilà, au Brésil, à Interlagos, on a une course d'anthologie quelque part. Schumacher est retardé par une crevaison assez rapidement pendant la course. Oui, et donc, après, il fait une remontée incroyable.
Voilà, il fait une course sensationnelle. Donc, quelque part, on peut dire qu'il sort quand même par la grande porte, même si ça ne saute pas aux yeux de la même manière. Ceux qui sont là ou ceux qui suivent la course de près, oui, bien sûr. Mais finalement, il est quatrième de ce Grand Prix, quoi. Okay. Alors, effectivement, il y a cette crevaison, après une touchette avec Fisichella. Enfin bon, déjà, il était dixième sur la grille parce qu'il y avait un problème en qualif avec la voiture. Donc voilà, ce Grand Prix s'en mange mal, quoi. Et alors que Massa est devant. Et finalement, il repart quasiment à un tour des premiers, 20e et dernier, et il remonte, et il se lâche. Il sait que c'est fini. Il sait que c'est son dernier tour de piste, et il va chercher, on a l'impression qu'il se surpasse, quoi. Il va vraiment chercher le dernier cara, et il bat encore le record du tour dans le dernier tour. Ouais. Voilà. Mais il échoue au pied du podium. Il y a un goût de trop peu. Il y a un manque, il y a un sentiment de... un peu amer, quand même, sur cette sortie.
Michael Schumacher, La Saga, un podcast de Pierre Van Vliet et Andy David, prise de son et montage Clément Winter, voix off Marie Lisac.